Bonnefeuille. Quarante romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, un papa de sang, de Jean Asfeld.
Bien voilà, je suis revenu avec Les Racines du ciel, de Romain Gary, un livre que j'aime beaucoup et que je trouve trop méconnu. Depuis l'aube, le chemin suivait la colline à travers un fouillis de bambous et d'herbes où le cheval et le cavalier disparaissaient parfois complètement, puis la tête du jésuite réapparaissait sous son casque blanc, avec son grand nez osseux au-dessus des lèvres viriles et ironiques, et les yeux perçants qui évoquaient bien plus des horizons illimités que les pages d'un bréviaire. Je trouve que c'est un livre merveilleux sur ce qu'a pu être l'Afrique dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, ce qu'a pu être cette Afrique des 400 000 éléphants, puisqu'il y a beaucoup question des éléphants, ce qu'a pu être cette Afrique qui était en pleine mutation à l'époque où il a écrit, parce que Romain Gary est quand même un visionnaire hors norme, c'est-à-dire qu'il a à peu près écrit l'histoire avant qu'elle se déroule, et on voit déjà les Lumumba qui arrivent, on voit tout ce qui va se passer. Il l'écrit de manière très littéraire, c'est-à-dire que c'est pas un essai, c'est un roman, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, il y a toutes ces descriptions de cette Afrique qui m'ont beaucoup touché parce que, si vous voulez, même à Nyamata, au Rwanda, quand je parle avec les gens, ils se rappellent, c'est pas si loin que ça, cette Afrique-là. Ils parlent des lions qu'ils rencontraient quand ils allaient à l'école, c'est-à-dire ils parlent des éléphants qu'ils croisaient de temps en temps ou des pitons. C'est-à-dire que cette Afrique moderne, elle est contemporaine, elle est très récente en fait. Il y a encore dans les campagnes et tout ça, ce souvenir de cette Afrique. Et je trouve que c'est un livre extraordinaire de Romain Gary. Il a connu une Afrique que je n'ai pas connue. Et puis, je ne regarde pas beaucoup l'Afrique. Pour être franc, je regarde un événement qui est comme ça, très très précis et particulier, qui est celui du génocide Tutsi, et qui échappe un peu à l'Afrique, quoi. Je ne vais pas employer des grands mots, mais qui est un peu universel, quoi. Qui n'est pas inscrit dans l'histoire précise de l'Afrique. C'est dans l'histoire plutôt de la continuité de ce XXe siècle un peu. Voilà, c'est la fin d'un XXe siècle, le génocide Tutsi, c'est plus ça. Mais bon, il y a avant ce génocide, avant cette petite aventure littéraire, il y avait eu quand même beaucoup de voyages en Afrique, au Mali, etc., où effectivement j'avais été nostalgique de cette Afrique que j'avais pu lire chez Romain Gary et chez d'autres, parce qu'il y a aussi Une ferme africaine, etc. Il y a d'autres livres comme ça qui vous font penser qu'à un moment donné, au Jules Verne, etc., à un moment donné, ce continent a... un peu originel, a été fascinant, quoi.
Il va sans dire que votre travail n'est pas une petite aventure littéraire. En tout cas, elle se poursuit. Vous êtes retourné à Nyamata, autour de Nyamata, et vous vous apprêtez à publier aux éditions Gallimard un nouveau livre sous le titre « Un papa de sang » dont vous allez nous lire les premières pages.
Tout de suite. Depuis que les branches et les buissons griffaient la carrosserie jusqu'au toit, nous roulions dans une pénombre verte. On eût dit que nous traversions un passage souterrain de feuillage, mais ce n'était pas l'aventure. Ce chemin repris par la nature qui mène à Nangwa, nous le connaissions. C'est tout au bout qu'habite Ignace Rukimakumu, à flanc de colline. Justement, le voilà, devant nous, Ignace. C'est lui qui trottine pieds nus, un drôle de pantalon qui lui arrive au mollet, derrière une jeune femme qui marche à sa grande enjambée. On a la nette impression qu'il lui crie dessus, faisant fi du très charmant turban jaune qui la coiffe. C'est une surprise de le retrouver ici, car il est censé casser des cailloux à une cinquantaine de kilomètres dans un camp de travail. Il porte un baluchon sur la tête. Il se retourne au bruit de la voiture et se marre. Son visage, sec et froissé par les années, n'a pas changé depuis la dernière fois. Encore plus étonnant est de retrouver intact son regard si rusé de vieux matois et sa mimique sardonique. Il raconte qu'il revient aujourd'hui même de 3 années de rééducation par le travail, appelés aussi travaux d'intérêt général, au cours desquels il a curé les bas-côtés des routes, écrasé de la pierraille et mangé des gamelles de haricots sans sauce. Âgé de 62 ans au moment des tueries, en 1994, Ignace fut dispensé par ses pères des expéditions dans les marécages, trop athlétiques pour ses jambes chétives. Ça ne l'empêcha pas, bien au contraire, d'aller braconner des Tutsis. Le soir, lorsque la folie des tueries semblait retomber jusqu'au lendemain matin, on le voyait descendre dans les papyrus, armé d'un arc avec lequel il chassait jadis le gibier d'eau. À son retour d'exil dans le Kivu, emprisonné avec la bande de Kibungo, il sortit le premier du pénitencier de Rilima, grâce à un décret présidentiel de pardon aux prisonniers âgés. Il revint chez lui sans condamnation, mais sa mauvaise foi excessive au moment des procès Gachacha, 10 ans plus tard, lui valut une peine de travaux d'intérêt général qu'il vient donc de purger à 81 ans passés, animé de ressentiments que l'on devine bien rance. La jeune femme avec qui il ne cesse de s'engueuler tandis que nous échangeons des nouvelles n'est pas sa fille, mais son épouse, Jeanne. Sur le chemin de retour, il est allé d'Erechef la récupérer dans un Moudougoudou, pas loin où elle s'était enfuie. Nous apprenons qu'il la ramène parce qu'il a entendu beaucoup de racontars à son sujet dans son camp. La dispute reprend à grands cris, coupée de menaces mutuelles de torgnoles que rien ne peut interrompre. Ignace me demande d'intercéder en médiateur. Jeanne me jauge d'un regard minutieux et accepte. Il y a dans le coffre quelques bouteilles de primus. Elles tombent à pic. Les palabres s'annoncent longues. Au loin, on entend le glapissement lancinant d'une bête, trop gutturale pour être d'un chien ou d'un serval, comme on en croise parfois. Depuis notre arrivée, elle glapit sur un ton monocorde comme si elle était là depuis toujours. Ça monte du fond de la vallée. Un animal blessé, enlisé dans la vase, un animal qui depuis les profondeurs hante les marais. Dans un précédent livre, j'ai écrit au sujet de la maison d'Ignace, construite sur une arête de la colline de Langois, qui surplombe la rivière à Kanyarou, elle domine ces terres qui dévalent abruptement, d'où s'étend l'un des plus magnifiques panoramas de la région. Rien n'a changé depuis. Nulle part ailleurs on n'embrasse une telle vue des marais, ni du bas vallonné de la parcelle d'Anglebert, ni du haut de la forêt de Chougarou, ni du chemin de crête près de Chefancras, ces marais ne suscitent autant la fascination. Au pied du camp, des taillis constellés de fleurs jaunes recouvrent les ravinements tortueux d'une terre rouge. Plus bas, le vert clair d'une bananeraie se lue plus céladon des palmiers que serrent les feux de tourbe. Au-delà s'étend l'immensité des marécages que recouvre le fleuve à Kanyarou, dont on devine puisqu'on ne voit le cours presque immobile. C'est une mer de feuillage jusqu'au premier contrefort montagneux qui se fonde vaporeusement à l'horizon. Le moutonnement vert-bouteille des papyrus domine, tavelé de la couleur claire des roseaux et des éclats argentés de mare dans lesquels se réverbère le soleil, le massin surtout, lorsqu'il darde ses rayons éclatants. À présent, il l'éblouit d'une lumière étouffante. Plus tard, au moment de basculer derrière l'horizon, il l'illuminera de jaune-orangé, puis d'une étrange lueur rose. Avant de découvrir ces marais, il m'était impossible de me représenter les scènes de chasse à l'homme que racontaient Jeannette Haï-Camillé et Francine Nyitegeka, plus exactement de comprendre qu'elles aient duré tant de semaines. Quand je les vis, il devint difficile de m'en détacher, y revenant sans cesse, le regard fasciné dans les moments de doute et de dégoût. C'est Ignace qui dit un jour, tandis qu'on parlait de ces marais, « Les cadavres pourrissaient tellement qu'on ne reconnaissait pas ce qu'on avait attrapé. On croisait la mort presque à chaque pas, et toutefois on n'entrevoyait jamais la sienne ou celle des siens. La mort devenait à la fois habituelle et surnaturelle, je veux dire qu'elle nous laissait distraits. La vérité du génocide est dans la bouche des tueurs qui la tripotent et la dissimulent, et des morts qui l'ont emporté avec eux. Depuis le terre-plein de la maison, outre le glapissement qui monte des marais, on entend un fond sonore d'aboiement rauque, ceux des hérons, les glapissements plus aigus des vautours blancs que l'on voit planer, les éclats de rire des ibis et un concert de chants plus indéterminés, peut-être des perroquets, de minuscules singes à la pointe, dont on dit qu'ils vivent ici en nuée. Tandis que l'on s'approche de l'eau boueuse, les cris s'effacent derrière un vacarme de criaillements de grenouilles, mais aussi des grettes, de bourdonnements ou de grognements. Avec de la chance, on aperçoit une troupe de phacochères pataugeant au bord d'une mare, plus rarement la tête d'une antilope Sitatunga nageant dans le Sumatra. Des fleurs blanches de nénuphars se laissent bercer par le courant, des orchidées roses ourlent des îlots de roseaux. Là, dans la vase, reposent les familles de Berthe et de Claudine, le bébé de Francine, les parents et la sœur d'Innocent, la maman de Jeannette, les parents d'Angélique, l'épouse de Jean-Baptiste, son fils, les parents et beaux-parents d'Édith. Des milliers de corps se sont enfoncés dans ces marais de la Cagnarou et de la Caguera, désormais hantés par une foule de fantômes qui montent sur les collines, tourmenter les vivants. 19 ans ont passé, l'âge d'un adolescent. J'en connais beaucoup qui ont grandi en compagnie de ces revenants. Chacun s'est débrouillé à sa manière de cette histoire qui est devenue la sienne. J'en ai rencontré plusieurs pour écrire ce livre, enfants des rescapés ou des tueurs qui sont intervenus à leur tour dans mes précédents livres. Tous connaissent les marais que l'on aperçoit dès le long pont qui marque l'entrée dans le district de Nyamata. Tous savent ces secrets maléfiques. Un seul d'entre eux a pris l'initiative de descendre seul jusqu'au bord pour observer de près l'eau brunâtre des marigots et mettre une image sur ce qu'il entendait depuis son enfance. Il s'appelle Jean-Pierre Abimana. Il est l'un des fils d'Alphonse, Itariemaye, un copain d'Ignace, et un tueur de la bande du livre « Une saison de machette ». Garçon sympathique, Jean-Pierre vit sur un versant de la Caguera, à Niamabouyé. Il termine son apprentissage de couturier dans un atelier près du marché de Kaboukouba. Voici, en peu de mots, son enfance gênée, pour reprendre son expression. Jean-Pierre Abimana. C'est avec des jambes de 7 ans que j'ai pris le chemin de l'école. C'était risquant. Je devais courir sans un stop car j'étais visé du doigt. Parfois, j'entendais crier « Celui-là, c'est un enfant de tueur. Son père, on l'a bien vu. Il levait sa machette à s'en casser les bras. La tuerie lui coule dans le sang. Je ne devais pas me retourner. D'autres fois, j'ai croisé des enfants plus courts que moi pour me lancer des crachats. J'ai été obligé de me cacher derrière les broussailles. Nombre d'adultes poussaient leurs enfants à nous harceler de moqueries. J'étais apeuré, ça se comprend. Dans la cour d'école, quand on tripotait le ballon, je pouvais être attaqué de deux côtés par des enfants de rescapés. À cause de mon père, qui d'autre? Tout le monde savait bien qu'il vivait en prison. Je me taisais. Je savais préférable d'attendre le retour du papa pour donner ma réponse. Les lèvres toutes si débordées de mots grondants, j'ai reçu des cailloux. Ça a duré 2 ou 3 ans, puis la soudaine tranquillité m'a souri. Les autorités les ont sermonnés, qu'ils attendent les gachachas, qu'ils cessent de nous machiner des châtiments. En classe, aucun tourment, les enseignants se sont voulus très vigilants. C'était une enfance propice aux inquiétudes. J'écoutais les avoisinants raconter la guerre et la fuite au Congo. J'entendais aussi de bruyantes chamailles au cabaret. Chez nous, la boisson dégorge la gêne de ce qu'on a mal vécu. Quand les buveurs s'imbibent, ils se sentent piqués par des méchancetés de l'autre ethnie. Ils racontent fort, les chamailles ne manquent pas. Les enfants se blottissent sans négliger un mot. Pourtant, il n'attrape rien de compréhensible. Disons que, quand j'ai lu et quand j'ai écouté ces jeunes d'abord, puis quand j'ai décrypté et que j'ai travaillé leur texte, j'ai été aussi ému par les récits des enfants, des tueurs, que par les enfants, les récits des enfants des rescapés. C'est-à-dire que j'ai été très surpris par ce qu'ils m'ont raconté. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais très ému et souvent bouleversé. Et donc là, Peut-être aussi que je voulais surprendre un petit peu. Donc on a devant soi beaucoup de récits, on commence par travailler un peu ces récits, et après on envisage effectivement un montage un peu identique à ce que peut être un montage de cinéma, c'est-à-dire organiser un peu ces récits pour qu'ensemble ils forment un puzzle, c'est-à-dire ils créent une sorte d'univers. J'ai donc commencé par cette introduction que j'ai lue, qui permettait de rappeler un petit peu, à partir d'Ignace et à partir des marées, parce que les marées sont quand même au cœur de cette histoire, donc c'était les marées qui devaient introduire un peu ce livre. Et après, c'est Jean-Pierre. Pourquoi Jean-Pierre ? C'est un fils de tueur, et il racontait ses premiers pas à l'école. Je pense que c'est ça qui m'a peut-être motivé. Ce sont des enfants donc, qui ont entre 16 et 23 ans, 20 ans après, donc personne n'a réellement connu la machette. Un se rappelle un petit peu, parce qu'il avait 4 ans, 3-4 ans se rappelle, mais les autres non. Mais ils ont vécu avec ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu les machettes, mais ils ont vécu avec des machettes au-dessus de leur tête toute leur vie. C'est au départ, l'idée de départ était de faire un livre un peu sur l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'hériter de cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'hériter de ces récits, de ces mensonges ? Alors, de commencer par des premières questions assez simples, qui étaient comment vous la racontez ? C'est-à-dire comment on raconte ça dans une famille ? Là, j'étais extrêmement surpris par le fait. Je pouvais m'en douter parce que je connais ces gens, mais je n'avais pas mesuré à quel point ces récits pouvaient être aussi différents d'une famille ou l'autre, et notamment qu'ils pouvaient être aussi différents dans les familles des tueurs Hutus et dans les familles des rescapés Tutsis. Donc c'était ça un petit peu l'idée de départ, et puis après comment on vit avec cela, c'est-à-dire comment on vit avec ses parents. Alors c'est un livre bien sûr sur qu'est-ce que c'est que l'enfance. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? Qu'est-ce que c'est que... Parce que l'héritage n'est pas seulement d'hériter de l'histoire d'un génocide, c'est aussi hériter d'un destin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que naître avec une ethnie sur la tête ? On est Tutsi, on est Hutu. Qu'est-ce que c'est que vivre avec un papa dont on dit ceci ou dont on dit cela et qui est quand même votre papa ? Et donc, ça a été un livre d'abord sur l'héritage, puis un livre sur l'enfance et l'adolescence, un peu universel aussi, parce qu'il y a ces enfants qui sont nés, qui sont des enfants du génocide, mais qui sont aussi des enfants tout court. C'est-à-dire que le génocide, à plusieurs reprises, je l'ai remarqué, c'est peut-être ça aussi qui me fascine, en dénudant les histoires, en épouillant, en dépouillant tout, rend les choses plus simples et les questions plus directes. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis aperçu à un moment donné que c'était, ça, c'était pas volontaire au début, mais enfin, c'est venu comme ça dans le livre, parce que un livre, c'est de la littérature, et de la littérature, ça pense en même temps qu'on écrit. Je me suis aperçu que c'était surtout, peut-être, sans le vouloir, un livre sur les parents. C'est-à-dire que j'avais fait un livre sur qu'est-ce que c'est qu'un papa et qu'est-ce que c'est qu'une maman. Voilà. C'est qu'est-ce que c'est qu'un papa qui a tué à s'en casser les bras. Qu'est-ce que c'est qu'un papa qui a tué à s'en casser les bras, mais qui vous a donné la vie, qui vous a donc fait le don le plus magique qu'on peut imaginer, qui est celui de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une maman qui refuse de se prononcer sur les racontars qui courent autour de son papa qui a tué ? Qu'est-ce que c'est qu'une maman qui disparaît dans des crises d'angoisse ou de tristesse ? Qu'est-ce que c'est qu'une maman qui vous a mis au monde à la suite d'un viol ? Qu'est-ce que c'est qu'un papa qui n'a jamais été là ? Qu'est-ce que c'est qu'un papa qu'on voit depuis 20 ans maintenant, ou non, 15 ans, parce qu'elle est allée le voir la première fois à 6 ans, mais qu'est-ce que c'est qu'un papa qu'on est allé voir depuis 15 ans, 5 minutes par mois dans un pénitencier ? Voilà.
Mama may have, papa may have, but God bless the child that's got his own.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that cat's got his own.
Je n'aime pas la musique, très franchement, je n'aime pas la musique qu'écoutent ces jeunes. Ce sont des clips très vulgaires ou ce sont des très belles musiques religieuses. C'est l'un ou l'autre. Donc j'ai cherché une voix, une belle voix noire. Je voulais une belle voix noire. Et on m'a dit que vous aviez choisi en plus une voix un peu religieuse, donc ce qui est vraiment le top de chez top.
Merci Jean-Axel.
Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own.
C'était Jean Asfeld qui présentait son roman Un papa de sang, à paraître aux éditions Gallimard. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Jean Frédérics.
Crowding round the door. When you're gone and spending it, they know.